Amis auditeurs de Radio B, bonjour. Vous êtes donc sur Radio B dans l'émission Les musiciens qui nous entourent, animée par Bruno Point. Et nous sommes aujourd'hui à l'église de Viriat car notre sujet du jour, eh bien, ce sont les amis de l'orgue de Viriat. J'en suis un adhérent et je suis vraiment très content après la première émission qui a été consacrée à Stéphanie Ballandrin-Bulin sur son stage de comédie musicale à la MJC. Je suis donc très content aujourd'hui de changer de musique parce que le principe de l'émission, c'est de s'intéresser à toutes les musiques de qualité et nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'orgue et en particulier aux Amis de l'Orgue de Viriat, association qui va nous être présentée par son président Jean-Pierre Boitier. Je le remercie de m'accueillir et donc depuis l'église de Viriat, Jean-Pierre, peux-tu nous dire quelques mots sur l'association des Amis de l'Orgue de Viriat?
Alors tout d'abord, bienvenue à l'église de Viriat et de nous rendre visite pour parler de cet instrument extraordinaire que constitue l'orgue. Alors concernant l'association qui a été créée en 1977, puisque à l'origine, l'orgue a été construit, enfin souhaité en tout cas, par le curé de l'époque, qui était Père Chambard, en 1964. Sauf que le malheureux Père Chambard a eu des escrocs qui ont monté cet orgue n'importe comment. Donc il a fallu effectivement trouver des moyens financiers pour pouvoir mettre en marche cet instrument. Donc il a été créé cette association, les Amis de l'Orgue de Viriat, en 1977, pour collecter les fonds. Alors la collecte des fonds à l'époque, c'était la vente de tartes notamment, l'organisation de mini-concerts classiques principalement. Et donc cet instrument a véritablement fonctionné finalement qu'en 1986, donc c'est quand même assez long, hein, entre 64 et 86. Malgré tout, aujourd'hui, on a un instrument qui sonne. Alors il a été relevé encore une deuxième fois en 2000 et puis en 2015 suite aux travaux de chauffage de l'église. L'objectif de l'association, bien évidemment, comme vous l'avez compris, c'est d'entretenir cet instrument. Donc pour l'entretenir, il faut collecter des fonds. Et à ce titre, on organise des concerts pour cela. Mais c'est aussi de propager la musique de l'orgue, puisque c'est un instrument qui a une connotation assez religieuse, hein, puisque effectivement, il a le mérite d'embellir les homélies. Mais c'est un instrument qu'on peut découvrir sous d'autres facettes profanes. C'est un véritable orchestre à lui tout seul. Donc, au-delà de ça, effectivement, on souhaite qu'effectivement il y ait davantage d'instrumentistes, parce qu'il faut savoir que dans les années passées, nous avions jusqu'à 6 organistes pour finir à un seul organiste. Et depuis quelque temps, nous avons la chance d'avoir 4 organistes à notre disposition au sein de l'association. Au-delà de ces aspects d'entretien de l'instrument, de propager la musique de l'orgue, l'objectif c'est aussi d'aller découvrir d'autres instruments, voire des facteurs d'orgue. Et à ce titre-là, chaque année, on organise une visite et qui dernièrement s'est terminée par un échange.
Et alors, qu'en est-il de l'association? Quels sont les adhérents? Comment fonctionne-t-elle?
Alors, l'association est composée maintenant de plus d'une vingtaine de membres, sachant qu'effectivement, cette association étant vieillissante, entre guillemets, nous étions redescendus à un effectif qui était assez réduit d'une quinzaine de personnes. Et depuis quelque temps, nous avons la chance, effectivement, d'attirer de nouveaux adhérents, plus jeunes, ce qui permet d'ailleurs d'émettre de nouvelles idées, donc ça c'est très intéressant. Alors effectivement, on a fait une campagne de communication lors des forums d'associations, notamment à Viria. Nous avons assisté aussi à une réunion pilotée par le titulaire de l'orgue Notre-Dame de Paris, qui est Orgue en France, qui regroupe l'ensemble des orgues en France. Et donc par ce biais-là, nous avons pu effectivement établir une meilleure communication sur l'association et sur l'instrument. D'ailleurs, vous pouvez découvrir un panneau qui explique effectivement l'historique de l'orgue et la composition de l'orgue.
Eh bien, merci pour cette présentation. Quant à la présentation de l'orgue, sur le site de Radio B, dans la fiche du podcast de cette émission, je mettrai le document qui permet de décrire l'orgue. Et vous savez qu'un orgue, c'est à la fois complexe et à la fois très riche. Il y a à Viria deux claviers plus un pédalier et un nombre de jeux significatifs qui permettent de jouer nombre de répertoires. Nous allons, pour conclure cette présentation, et bien passer un morceau d'orgue, et j'en parlerai plus avant, un peu plus tard. Donc Jean-Pierre, tu nous as dit dans ta présentation que l'une des actions de l'association consistait en un concert annuel. Et évidemment, je vais te demander de nous en parler plus. Concert annuel dont tu nous as bien précisé qu'effectivement, au départ, il est fait pour apporter des fonds à l'association qui permettent l'entretien de l'orgue.
Tout à fait.
Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'un orgue, c'est coûteux. Et pour que l'orgue de Viria vive, eh bien, il faut l'entretenir. Et entretenir, ça veut dire prendre soin des tuyaux, l'accorder, faire des réglages. L'église est un lieu magique et très important, mais elle est soumise à des variations de température. Donc toute cette mécanique de l'orgue a besoin d'être entretenue pour pouvoir passer l'hiver et retrouver l'été, pour dire des choses très simplement. Mais aussi, je parlais donc de la nécessité de collecter des fonds, mais aussi, et bien ça fait vivre l'église de Viria et vivre l'orgue de Viria et attirer des personnes qui viennent écouter ce concert. Donc, à ce moment-là, l'orgue prend toute sa signification et n'est pas un instrument de musée. Il vit. Alors, qu'en est-il des concerts annuels des amis de l'orgue de Viria?
Oui, comme tu l'as bien précisé, je me permets de te tutoyer. Oui.
Oui.
Un orgue est très fragile de par sa conception, d'autant plus sa conception à Viria. Pour à titre indicatif, les derniers travaux que nous avons réalisés, c'est 25 000 euros. Donc effectivement, la nécessité d'organiser un concert pour collecter des fonds est vraiment nécessaire, c'est que de le dire, je le répète. Mais au-delà de ça, effectivement, quand j'ai repris un peu la présidence de l'association, ça fait pas loin d'une vingtaine d'années maintenant, pour moi, l'objectif, c'est effectivement d'amener aussi une culture musicale au sein de l'église de Viriat et de la commune de Viriat, et d'amener effectivement une variété de concerts, avec parfois des originalités. Et ça, ce qui m'a permis de faire ceci, c'est la collecte de fonds via des sponsors. Puisque quand j'ai repris l'association, il y avait effectivement, comme je l'avais précisé en introduction, des concerts classiques, plutôt classiques, qui attiraient entre 50 et 100 personnes. Et donc pour effectivement faire venir des artistes de qualité et des concerts de qualité, il fallait effectivement des fonds plus importants. Et à ce titre, on a mis en place un programme avec des sponsors, ce qui a permis effectivement d'avoir un budget plus conséquent pour faire venir des artistes. Un exemple très concret, le premier concert que j'ai mis en place en tant que président, c'est la venue du chœur Saint-Marc de l'époque du film Les Choristes. À titre indicatif, le budget qui était utilisé pour faire des concerts auparavant, c'était 800 euros. Les Choristes, c'était 7500 euros. Donc vous voyez la proportion. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans ces proportions-là, mais malgré tout, il fallait des budgets plus conséquents pour faire venir effectivement des artistes de qualité. Alors j'ai cité Les Choristes il y a une vingtaine d'années. On a fait venir des trompes des Alpes. On a fait venir dernièrement des Corses. Et puis tout récemment, donc Romain Leleu, excellent trompettiste, avec Jean-Baptiste Robin, titulaire de la chapelle royale de Versailles, hein, titulaire à l'orgue. Et puis encore dernièrement, donc un ensemble basque avec un chanteur basque, des joueurs de xalaparta, qui sont des instruments spécifiques de la région basque, et puis une organiste espagnole de San Sébastien.
Voilà, je détaillerai un petit peu plus les personnalités de ce dernier concert basque, puisque nous allons écouter des extraits, non pas du concert, mais de leur disque. Et sachez que ce sont des personnes d'un très haut niveau et d'une renommée mondiale. Et pour avoir été évidemment présent au concert et y avoir emmené des amis, je n'ai eu que des retours enchantés. C'est-à-dire que les gens ont été à la fois surpris de découvrir ce nouvel instrument et puis de la variété et de la qualité de ce qu'ils ont entendu. participer, l'association n'est pas un monde entre soi, nous ne sommes pas uniquement entre nous, mais bien au contraire, nous souhaitons attirer dans notre association et pour les amis de l'Ordre de Viria et pour l'Ordre de Viria de nouveaux adhérents et de nouveaux organismes, n'est-ce pas Jean-Pierre ?
Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur puisque bon, mon fils qui était au conservatoire et pianiste, bon, il est venu à l'orgue très jeune. Et à l'époque, comme je le précisais, il y avait 6 organistes. Et ensuite, on s'est trouvé qu'un seul organiste. Donc dans ce cadre-là, j'avais été voir le conservatoire il y a déjà une vingtaine d'années pour effectivement voir s'il était possible de mettre en place des classes d'orgue, quitte à ce que l'association, d'ailleurs les Amis de l'Orgue, participe financièrement à cette activité. À cela, il m'était répondu qu'effectivement, à l'époque, il y avait le projet du nouveau conservatoire à Bourg-en-Bresse et qu'il fallait attendre qu'il y ait une classe d'orgue qui s'ouvre. La classe d'orgue s'est ouverte il n'y a pas très longtemps et donc nous avons eu des échanges tout à fait récemment pour essayer de mettre en place une convention avec le conservatoire de Bourg-en-Bresse et la classe d'orgue. Mais au-delà du conservatoire, on est prêts, nous, à accueillir des jeunes, prêts à les accompagner pour des cours d'orgue, pour qu'effectivement, il y ait davantage d'organistes. Les organistes sont de plus en plus âgés, parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'attrait sur cet instrument. Aujourd'hui, on redécouvre quand même un attrait pour cet instrument. On a une expérience, on est allé à Beaune, on est allé rencontrer l'organiste de Beaune, et là, à Beaune, il y a un conservatoire où la classe d'orgue est très très importante, et avec des très jeunes élèves intéressés par cet instrument. Comme quoi, ben, la cause n'est pas perdue, on peut effectivement à nouveau faire découvrir cet instrument, et on est ouvert effectivement à ouvrir l'orgue de Viria à tous les jeunes, qu'ils soient au conservatoire ou qu'ils soient dans un cursus particulier.
Donc, amis auditeurs qui aimaient l'orgue, qui peut-être jouaient un peu de piano, n'hésitez pas à vous lancer et à venir tester vos doigts sur ce bel instrument qui vous attend. Après Jean-Pierre Béthier, président et grand amateur d'orgue, bien sûr, eh bien, à l'église de Viria, je suis avec Blaise Larocca. Blaise Larocca, c'est un musicien. Il va nous parler de lui, mais il était professeur de musique et il pratique le piano, l'orgue, l'accordéon. Et il va nous expliquer un peu son parcours et comment il en est arrivé à participer activement aux Amis de l'Orgue de Viria.
Oui, ben bonjour, oui, d'accord. Donc, je suis issu d'une famille modeste, hein, dirons-nous. J'habitais dans la région lyonnaise, sur Villeurbanne exactement. Et mes parents avaient une règle très simple, c'est que chaque enfant devait s'initier à la musique. Résultat sans doute d'un manque de leur part, puisque eux-mêmes auraient aimé faire de la musique et ça n'avait pas été possible. Donc nous étions 3 enfants, nous sommes allés tous les 3 en études musicales, et sur les 3, il y en a un qui a continué, c'est moi, hein. Les autres n'ont pas continué.
C'est le vilain petit canard.
C'est le vilain petit canard, on va dire ça comme ça. Voilà, moi, pourquoi, je n'en sais rien, c'est comme ça, hein, j'ai accroché assez vite. Conservatoire à Lyon, études musicales avec piano, solfège, et puis voilà. Et puis, arrivé à l'âge de 16-17 ans, mes parents ayant des revenus modestes, pour les aider un petit peu, j'avais l'idée de faire un petit peu de bal le samedi soir. Donc, j'étais engagé dans des orchestres d'ailleurs divers et variés, hein, puisque j'avais l'avantage de pouvoir lire la musique, et donc je pouvais remplacer au pied levé comme ça, et jouer soit au clavier, soit à l'accordéon, directement sur partition.
Et là, quelquefois, j'écoute des interviews de musiciens aguerris sur France Musique notamment, et en effet, certains ont pratiqué la musique du samedi soir, les bals, et autant que je le comprenne, c'est très formateur.
Ah, mais c'est très formateur, parce qu'on arrive comme ça, parfois le jour même, on a la partition, et puis voilà, il faut pouvoir faire ça au pied levé, c'est extraordinaire comme formation, hein. Et puis c'est de l'orchestre, quoi, donc on est une partie d'un tout. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu comme ça, et puis après le bac, eh bien, je suis entré en fac de musicologie à Lyon, toujours. Je suis un cursus tout à fait classique, diplôme d'études universitaires générales, CAPES, et puis un poste. Premier poste de prof de musique dans un collège, d'abord la région lyonnaise, hein, j'ai voulu me rapprocher un petit peu de Bourg. J'ai pas eu poste tout de suite sur Bourg, mais enfin j'ai eu quand même un poste à Perona, voilà. À Perona, où j'ai connu mon épouse d'ailleurs, qui était déjà prof, elle, de mathématiques, et on s'est connus là-bas et on s'est mariés ensuite, voilà.
Donc nous recevons à Radio B un professeur de musique de Bourg-en-Bresse.
Exactement, voilà, prof de musique, donc dans un premier temps à Perona, où j'ai créé ma première chorale, qui était en fait une chorale de, à la fois des profs qui voulaient bien rester un soir par semaine après les cours, et quelques parents aussi qui se joignaient à nous. Donc nous étions une chorale d'adultes, hein, une petite chorale, mais c'était sympa. Et puis bon, cela à côté, évidemment, j'avais ma chorale d'élèves aussi, hein, et c'est comme ça que j'ai chopé le virus aussi du chant choral. J'aurai l'occasion de peut-être d'y revenir plus tard.
Et là, je m'aperçois en fréquentant des amateurs de musique, amateurs ou professionnels, que les chorales, c'est un monde très divers et très nourri. Il y a pas mal de chorales dans notre région, oui, et des gens qui sont très assidus dans des styles différents. Oui. Ça va être des chansons, oui, ça va être des chœurs plus traditionnels.
Oui. Du classique.
Voilà, c'est un milieu très fourni. D'ailleurs, oui, cette émission recevra très certainement des chorales, oui, dans les mois qui viennent.
Oh, il y a de la matière, là, je pense qu'on peut y aller.
Tout à fait.
Voilà. Donc, après le collège de Perona, j'ai obtenu un poste sur Bourg-en-Bresse, où j'ai été prof de musique donc au collège de Revermont, pendant une quinzaine d'années à peu près. Et ensuite, j'ai eu le professeur du lycée Quinet partant à la retraite. J'ai eu la chance d'avoir sa succession, et d'être donc nommé au lycée Quinet, où là, j'ai carrément changé de travail, hein. J'avais 40 ans à l'époque, mais j'ai l'impression de changer de boulot, parce que on n'avait plus le même type d'élèves, pas du tout le même type de cours, ça n'avait plus rien à voir. Imaginez, quand on avait 28 à 30 élèves par cours, et là, on se retrouve avec des petits groupes d'élèves tout à fait motivés, puisqu'ils avaient choisi l'option, ils n'étaient pas obligés, avec un niveau évidemment... la plupart du temps un très bon, c'était autre chose, voilà, c'était un autre boulot. Non pas que je regrette ce que j'ai fait avant, parce qu'il y a évidemment un rôle important à jouer au niveau de nos jeunes enfants pour leur donner la fibre musicale, hein, donc ça c'est important, mais j'ai aussi apprécié le fait de pouvoir amener vers le baccalauréat des élèves un petit peu plus nourris musicalement et un petit peu plus motivés vers... je dirais vers un niveau supérieur.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait référence dans l'autre émission que j'anime, Musique au pluriel. J'ai reçu Jean-Claude Guérineau, oui, qui lui, je vais massacrer sa fonction et le titre de sa profession, oui, mais était professeur des professeurs de musique.
Oui, c'est ça.
Il enseignait à de futurs professeurs de musique, oui, et il a aussi beaucoup pratiqué, il m'a dit les mêmes choses que toi, il a beaucoup pratiqué dans l'initiation des gens, à leur donner le goût, aux enfants en particulier,
exactement,
leur donner l'ouverture et la possibilité de pratiquer la musique.
Exactement.
Bien, et bien Blaise, merci pour cette présentation, et nous allons maintenant écouter un morceau de musique qui illustrera ton affection pour la musique. Thank you. Maintenant, venons-en à ta pratique de l'orgue. Qu'est-ce qui t'a amené à cet instrument après avoir fait toute une vie musicale,
oui.
En ayant pratiqué le piano, en ayant pratiqué l'accordéon,
oui, oui.
Et bien maintenant, c'est l'orgue.
Ben oui. Alors, je suis un petit peu pratiquant catholique, donc j'allais à l'office de temps en temps et on m'avait demandé si je pouvais accompagner certains offices. Bon, comme j'étais pianiste, pas de souci, je pouvais me mettre sur un clavier d'orgue et accompagner des chants très simples. Bon. Mais je n'étais pas organiste pour autant, on est bien d'accord. Et le fait d'être parti à la retraite, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais peut-être avoir un petit peu de temps, je vais essayer de découvrir l'orgue. Et j'ai suivi un stage intensif, en fait, c'était la première année après ma retraite, un stage intensif en Alsace, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Musicalta.
Grand pays, grande région d'orgue.
Grande région d'orgue, ô combien, oui. Et justement, j'ai eu là-bas la chance de pouvoir toucher, c'est le cas de le dire, plusieurs instruments dans le laps de temps de 10 jours à raison de 8 heures d'orgue par jour. Donc, une heure de cours par jour avec un certain Lionel Aveau, qui était un grand organiste sur Paris et sur Lyon et qui m'a donc vraiment donné le virus. Quoi. Voilà, depuis... j'aime beaucoup cet instrument et d'ailleurs Lionel Aveau, lorsqu'on a fini notre stage, m'a dit, bah, écoute, maintenant tu as tout ce qu'il te faut, c'est à toi de jouer, c'est à toi de pratiquer le plus possible pour pouvoir progresser, hein. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors j'ai essayé donc de me procurer un instrument à la maison, mais j'ai dit, bah, ça ne vaut pas un orgue à tuyaux. Et puis je me suis tourné vers Viria, où j'étais accueilli par Vincent Charbouillot, qui était l'organiste et qui est toujours l'organiste là-bas. Et Vincent m'a dit, bah, viens ici, pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer aussi à Viria, une fois par mois à peu près, une à deux fois par mois, on va dire, sur l'orgue à tuyaux de l'église, pour accompagner les offices, mais j'y allais aussi souvent dans la semaine, comme ça, pour me faire plaisir, travailler quelques partitions, uniquement pour le plaisir, et pas forcément que des œuvres religieuses d'ailleurs, également des œuvres profanes pour cet instrument-là.
Mmh. Oui, parce qu'il y a une grande littérature pour l'orgue. Oui. Bien sûr, l'orgue est un instrument situé à l'église qui a vocation à accompagner la messe et, oui, accompagner les chants,
oui,
mais il y a une très grande littérature d'orgue, même avant Bach,
Bach
évidemment
a
toutes les mémoires.
Soit une littérature propre d'ailleurs, soit des, oui, transcriptions, tout est possible, hein, c'est extraordinaire.
Me vient une question,
oui,
où j'ai entendu un organiste expliquer, parce que je m'étonnais du fait que les organistes sont en général très titré dans de nombreuses particularités, à savoir, mmh, ils sont souvent pianistes à l'origine, après, mmh, ils sont organistes, ils, mmh, sont très souvent diplômés de contrepoint, mmh, de fugue,
mmh,
et aussi d'improvisation. Et je me, mmh, demandais pourquoi l'improvisation. Peux-tu nous dire quelques mots?
Oh ben alors, ça, c'est très simple, c'est quand on a l'habitude d'accompagner un office, qu'il y a par exemple des moments clés dans, à ce moment-là où il, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Je pense au moment de l'offertoire, je pense au moment de la communion. Donc ce sont des moments où on sait quand on commence, mais on ne sait pas forcément quand on finit.
Voilà, donc on ne peut pas calibrer un morceau.
Voilà. Ou alors on commence par un morceau et on continue par l'improvisation. Mais parfois le plus simple, c'est de commencer carrément par un petit thème très simple et partir sur l'improvisation. Ce qui en soi, et d'ailleurs, est un réel plaisir. C'est un plaisir. J'ai peut-être encore plus découvert avec l'orgue qu'avec d'autres instruments.
Eh bien, nous allons néanmoins en venir à une pratique de l'orgue, je dirais, sur des morceaux écrits. Et nous allons illustrer ta pratique par un concert de Noël récent, puisqu'il c'était en 2024, où tu peux nous dire quelques mots sur les trompettistes qui t'accompagnaient.
Oui, alors il s'agit justement de deux Viriati. Parmi ces deux-là, l'un était un ancien élève à moi, puisqu'il était passé par le lycée Quinet, c'est Nicolas Ponsard. Et l'autre, qui est son copain, qui joue également de la trompette, qui s'appelle Denis Nallet. Donc, deux Viriati qui sont venus vers moi. C'est eux qui, un jour, ont eu l'idée, m'ont dit « Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble ?» Je dis « Mais avec plaisir. » Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter cette petite programmation d'une demi-heure dont on pourrait peut-être écouter un extrait, effectivement.
Absolument. Dans ton parcours, ce que je qualifierais de pluralité de musique, qui personnellement me fait écho, puisque mon émission initiale sur Radio B s'appelle Musique au pluriel. Et j'insiste toujours là-dessus parce que si au départ musique au pluriel était consacrée pour une bonne partie à la musique dite classique, en fait j'ai toujours souhaité élargir ce champ à des musiques qui me paraissent parfaitement nobles. Me viennent à l'esprit les émissions sur le tango, sur le fado, sur les comédies musicales américaines, sur les comédies musicales, plutôt les films musicaux de Jacques Demy et Michel Legrand. Donc la musique, elle a plusieurs territoires. Et donc j'ai noté dans ton parcours, à commencer par tes débuts dans un orchestre de bal, que tu as une affection pour les musiques.
Exactement. Bon, c'est vrai que j'étais issu, je l'ai déjà dit, d'un milieu modeste. On n'écoutait pas beaucoup de grandes musiques. Mais je me rappelle encore, j'aime à me le remémorer, je me rappelle encore d'un disque vinyle qu'on m'avait offert pour Noël. J'avais 14 ans et c'était la pastorale de Beethoven, c'était la fameuse 6e symphonie. Et là, ça a été pour moi un déclic, mais c'est magnifique. Et c'est comme ça que j'ai découvert un autre monde et j'ai plongé littéralement dedans. Mais après, il n'y a rien à faire, il restait quelque chose des sources, je pense. Et très naturellement, je suis toujours revenu vers la musique populaire, mais avec un autre regard sur cette musique populaire. J'admire beaucoup, par exemple, un vieillard que j'avais entendu une fois improviser vocalement sur un banc dans un parc. Tout seul, il se croyait tout seul, il chantait, mais c'était très bien fait, c'était magnifique. Oui, c'est peu de choses, mais je crois que la musique, où elle commence, où elle finit, on ne sait pas trop. Tout est musique, finalement, quelque part, selon ce qu'on y met dedans, selon ce qu'on peut ressentir à partir de celle-là.
Et je sens en toi l'écho parfait de ce que je pense, à savoir que, bien sûr, nous aimons la musique, mais je dirais, au-delà de la musique, c'est quoi c'est, il y a trois éléments. Il y a celui qui la compose, il y a celui qui la joue, et il y a celui qui l'écoute. Donc on voit déjà que c'est complexe.
C'est complexe.
Oui. Et ensuite, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la musique, elle est jouée par des musiciens. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est d'écouter les musiciens. Et les musiciens de qualité... Eh bien, il y en a dans les orchestres de bal, comme à la tribune de Notre-Dame de Paris.
Bien sûr.
Il y a des grands interprètes dans tous les domaines.
Tout à fait. Mais je reviens sur cette trilogie dont tu viens de parler. Je pense qu'elle peut faire une. C'est-à-dire qu'un musicien peut être le compositeur, l'interprète, et s'écouter lui-même. Je veux dire, dans sa sphère, c'est déjà de la musique, même s'il est tout seul. Tu vois ce que je veux dire. Ça me semble important.
Alors donc, tu as développé... différentes activités musicales, et donc tu nous en as parlé, les chorales.
Oui.
Et donc, très bientôt, il va y avoir un événement dans ces chorales.
Oui, parce que bon, j'ai eu plusieurs chorales dans ma carrière, j'ai eu jusqu'à 5 chorales en même temps, enfin pas tout le temps, mais une période où j'ai eu pendant 5 chorales, dont ma chorale du lycée. J'avais le soir, une fois par semaine, la chorale des profs, des collègues, quoi. Voilà, j'avais une chorale classique, un chœur classique à Perona, qui s'appelait Allegro Voce. Et j'avais aussi une chorale à Saint-Denis-les-Bourgs. Bon, bref, de tout ça, il ne me reste plus qu'une chorale, celle de la commune où j'habite, celle de Saint-Denis-les-Bourgs, donc une chorale qui s'appelle Vive Voix, et qui fait son concert très bientôt, les 25 et 26 avril prochains. 25 et 26 avril, parce qu'on le fait deux fois, hein, le samedi soir et le dimanche après-midi. Ce concert sera sur le thème du printemps, puisqu'il s'intitule « Hymne au printemps », avec une soixantaine de choristes, un orchestre de 10 musiciens, de la danse, des poèmes, bref, un spectacle très, très complet, très varié.
Et consacré à la chanson française.
Chanson française.
En lien avec le printemps.
En lien avec le printemps. Ça peut être des chansons un petit peu anciennes, hein, comme Au printemps de Jacques Brel, jusqu'à des chansons plus récentes.
Voilà. Et rappelons la date.
Les 25 et 26 avril prochains.
Bien. Eh bien, je pense que dans les émissions à venir de cette nouvelle émission, nous reparlerons de cette date pour l'imprimer chez nos auditeurs.
Merci.
Merci Blaise et à bientôt.
À bientôt avec
à la salle des fêtes de Saint-Denis.
Merci. Au revoir.
Et maintenant, l'émission Les musiciens autour de nous reçoit, dans le cadre des Amis de l'Orgue de Viriat, Vincent Charbouillot qui est, sous forme de boutade, le titulaire principal de l'orgue de Viriat. Il faut que vous sachiez, amis auditeurs, que dans les grandes églises, je pense à Notre-Dame de Paris, à Saint-Eustache, mais partout en France, il y a un, voire plusieurs titulaires qui jouent les offices, qui veillent à l'entretien de l'orgue et qui, en général, poursuivent une carrière personnelle de concertiste. Ce sont des salariés et, qui plus est, ils ont des recettes en vendant leurs disques, en donnant des concerts. À Viriat, on est dans un autre registre. On a affaire avec Vincent à un bénévole qui prend de son temps pour s'occuper de l'orgue de Viriat. Nous écouterons après le co-titulaire, Blaise, qui nous a fait le plaisir de venir dans cette émission aussi. Donc, Vincent, eh bien, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours personnel, professionnel et de ton goût pour la musique?
Alors, bonjour Bruno. Alors, effectivement, le titre du titulaire est très pompeux pour l'orgue de Viriat. Parce qu'il existait un titulaire avant, quand l'équipe était composée de 6 organistes qui animaient les messes du dimanche. Maintenant, je suis presque tout seul, effectivement, j'ai l'aide de Blaise Larocca. Et puis, de temps en temps aussi, de Jean-Claude Massard, qui est sur beaucoup d'orgues dans le département. Alors, Vincent Charbouillot, donc, 60 ans, j'habite Saint-Denis-les-Bourgs, je suis pas musicien au départ, je suis professeur de maths, voilà, je continue mes exploits au Collège Saint-Pierre à Bourg. Et puis, quand j'ai du temps, eh bien, effectivement, je le consacre un peu à la musique.
À la musique en général, tu vas nous en parler, alors, et puis à l'orgue après.
Oui, si je regarde mon parcours musical, ça a commencé par du chant, par des petits cours de chant au collège pendant les pauses méridiennes. Ça, c'était au collège, et puis jusqu'à la fin de mes études aux facultés catholiques de Lyon, j'ai pratiqué le chant choral à la fac catho de Lyon, et puis aussi déjà en donnant des coups de main à la chorale de Marbeau, la Cantavive, qui commençait et qui avait besoin à l'époque de renforts chez les ténors. Voilà, et de fil en aiguille, et ça fait 40 ans que je chante. Bon, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps, mais j'ai fait partie de deux ensembles, de la chorale Cantavive à Marbeau, et de deux ensembles vocaux, l'ensemble vocal dilettante, qui était dirigé par Nicolas Gindre, et puis, à la suite de ça, l'ensemble vocal de Lain, dirigé par Éric Reynaud au conservatoire.
Donc ce sont deux ensembles qui malheureusement se sont éteints.
Voilà.
Il y en a d'autres d'ailleurs, nous consacrerons une émission aux chorales de Lain, aux chorales autour de Bourg-en-Bresse, et on verra qu'il y a beaucoup de chorales, on le sait, on les voit sur le calendrier du théâtre et des salles des fêtes des communes avoisinantes.
Exactement. Et donc cette participation à la Cantavive de Marbeau, qui était affiliée au mouvement à cœur joie, m'a permis aussi d'être à des rassemblements régionaux à cœur joie et d'avoir des projets de plus grande ampleur. C'est vraiment des bons souvenirs. Et aussi de participer à des rassemblements de chorales nationaux, au Choralie, à Vaison-la-Romaine. Voilà, ce mouvement à cœur joie m'a aussi permis de me former pour être chef de chœur, ce que j'ai fait après une dizaine d'années en remplaçant Nicolas Gindre sur la Cantavive à Marbeau. Voilà pour le chant, c'est une vraie passion de la polyphonie.
Et puis, eh bien, j'ai pratiqué d'autres instruments. Au départ, c'est aussi 10 ans d'accordéon dans mon adolescence, en solo, en cours particulier ou bien en formation avec un professeur qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Eliane Puvillan. Et puis, j'ai dû partir à l'étranger et du coup, une envie très forte de partir avec un instrument de musique. C'est la guitare qui était le plus pratique, donc j'ai fait un peu de guitare. Et puis, je bénéficiais aussi d'un harmonium à la maison. Donc, j'ai commencé à prendre des partitions d'orgue sur cet harmonium, totalement en autodidacte. Et puis, petit à petit, l'orgue, c'est une coïncidence. L'orgue, enfin, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais voilà, l'orgue, c'est un instrument qui m'a marqué dans mes années d'étudiant. C'était surtout déjà des concerts gratuits à l'époque. Et voilà, j'ai des souvenirs de concerts à la cathédrale Saint-Jean avec cet orgue monumental qui a été d'ailleurs restauré il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors nous allons, pour illustrer ce parcours musical, d'abord centrer sur la participation à des chorales jusqu'à la direction de la chorale. Nous allons écouter un extrait musical des chorales auxquelles tu as participé.
Je n'aurai pas le temps
donc, Vincent, tu nous as évoqué ton parcours musical qui t'a amené à l'orgue. Donc, d'abord, tu as joué de plusieurs instruments, notamment tu as mentionné la guitare, mais tu as donc pratiqué l'accordéon. D'ailleurs, ça sera intéressant parce que tu as cité une professeure et il y aura bien sûr, dans le cadre de cette émission, une émission sur les accordéonistes de la région. Mais l'accordéon t'a amené après à l'harmonium, puisque tu en avais un.
Oui, la guitare et l'harmonium, oui.
Voilà. Et de l'harmonium, tu es passé à l'orgue. Comment tout ça s'est déroulé?
Alors, à l'orgue, il se trouve que j'assiste à un baptême à Viréa. Et puis, tout d'un coup, de la famille du baptisé me dit: on a absolument besoin que tu accompagnes à l'orgue les chants du baptême. Est-ce que tu peux le faire? Tiens, voilà la partition. Et ça serait bien que tu le fasses. Donc, totalement ne connaissant pas l'instrument, je me trouve assis devant le clavier et puis j'accompagne donc ces chants. Et puis, cette personne qui s'appelle Pascal Cure, qui a beaucoup œuvré à l'harmonie de Viréa et à l'animation de chants à l'église, me dit: mais je vais te faire connaître l'équipe, je vais te présenter l'équipe, et puis tu pourras participer. Donc c'est une grande joie, je participe à cette équipe un peu complexée parce que voilà, c'est tout nouveau pour moi. Le clavier, c'est le clavier de l'harmonium pour moi, c'est une formation, un entraînement autodidacte. Donc voilà, mais je me retrouve très vite donc dans cette équipe. Je crois qu'on était 6 à l'époque.
Attends, quand tu dis autodidacte, ça veut dire que tu n'as pas eu de cours de piano?
Alors, j'ai jamais pris de cours de piano, non. Je connais le solfège parce que j'ai eu des cours pendant 10 ans avec l'accordéon. Mais effectivement, à partir de ces cours de solfège, eh bien, je prends des partitions et je les déchiffre. Voilà.
Ça veut dire que tu poses tes doigts et tu joues sur le piano.
Je pose mes doigts avec sûrement beaucoup de défauts. Hein. Voilà, mais petit à petit, effectivement, je regarde les doigtés avec le solfège et les partitions. On a souvent des numérotations de doigts et puis voilà, j'apprends bon an, mal an, comme cela.
Bien, et donc, te voilà au sein de l'équipe d'organistes de Viréa.
Et voilà, et du coup, selon les plannings, eh bien, 2, 3, 4 fois par trimestre, j'accompagne les messes du dimanche.
Voilà, et alors, à côté de cette participation, bien sûr bénévole, on l'a dit, tu l'avais déjà, mais tu développes encore plus ton goût pour la pratique de l'orgue.
Oui. Et effectivement, le fait d'intégrer cette équipe me permet d'avoir les clés de l'église et de l'instrument et de pouvoir y aller autant que je veux.
Et là, tu te mets à jouer des morceaux d'orgue.
Voilà, je déchiffre, j'essaye, je transforme.
Il y a un aspect qui est intéressant aussi dans l'orgue, c'est le fait que les organistes, alors évidemment on a tous en référence des grands organistes qui ont développé une carrière, sont toujours des grands improvisateurs.
Oui.
C'est quelque chose qui est important dans l'orgue.
C'est quelque chose qui est nécessaire puisqu'il faut, combler des silences quelquefois ou prêter à la méditation pour les offertoires. On ne sait pas en général combien de temps il faut qu'on joue, ou pour des funérailles quelquefois, bénédiction du cercueil, on ne sait pas pour combien de temps on doit jouer. Et effectivement, ça nécessite de savoir combler des trous.
Voilà, sans savoir combien de temps ça va durer.
Et puis après, il y a les organistes concertants qui, qui ont carrément des pièces, effectivement, improvisées sur des schémas, je suppose. Bon, j'en suis bien incapable.
Voilà, mais
Mais il faut, voilà,
néanmoins,
savoir s'adapter dans l'accompagnement des...
néanmoins, tu as développé cette pratique.
Un petit peu.
Un petit peu. Bien. Eh bien, nous allons illustrer tes propos par l'écoute de l'orgue de Viria maintenant. Et je te remercie d'avoir participé à cette émission sur les amis de l'orgue, les amis de l'orgue de Viria. Vous avez écouté lors de cette émission tout d'abord un petit prélude de Bach, manière d'inciter les jeunes pianistes qui jouent souvent ce petit prélude de venir s'essayer à l'orgue de Viria, puisque donc ce prélude était joué sur l'orgue de Viria. Ensuite, un extrait du concert donné en novembre 2025 à l'église de Viria, avec les orgues de Viria, en l'occurrence le souffle basque avec un chanteur basque Thierry Biscari, une très grande organiste de Saint-Sébastien, Anna-Bélène Garcia, et deux interprètes d'un instrument extraordinaire qui s'appelle Xalaparta et qui sont une manière de xylophone sur du bois et sur des pierres. Ensuite, un extrait des choristes, concert donné à Quinay en 2024 avec Blaise, puis toujours avec Blaise, deux trompettistes de Viria et l'orgue de Viria dans un largo de Haendel. Ensuite, Je n'aurai pas le temps, merveilleuse mélodie de Fugain, chantée par Vincent, organiste de Viria. Puis enfin, les orgues de Viria avec Vincent, le titulaire. Et donc je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, et surtout je vous invite à rejoindre Stéphanie Ballandrin-Bulin, qui a fait l'objet de la première émission de cette nouvelle série Les musiciens qui nous entourent. Stéphanie qui donnera un concert le 24 janvier au théâtre de Bourg-en-Bresse intitulé Golden Hits. Il s'agit de tous les standards des années 70-80, Rocky, Top Gun, AC/DC, Scorpion, Springsteen, Toto, etc. À bientôt sur Radio B. Oh,
tête.